Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va, Maxime, qui aujourd'hui est dissipé?
Non, je suis...
Si, t'es dissipé, c'est... tu te marres déjà, l'émission n'a pas démarré.
Je me marre parce que ça fait 2 semaines sur 3 qu'on a une émission en public et aujourd'hui, on a notre plus grosse assistance.
C'est vrai, 4 personnes.
4 personnes.
4 enfants.
4 enfants.
4 adolescents.
4 adolescents à cet âge-là, on n'aime pas qu'on parle d'enfants.
Exactement.
14 ans.
Ça reste des mioches hein, quand je vois leur compte. Hein.
Non, alors vrai. Ouais, mais dans les mioches, il y en a une qui t'a mis une petite raclée au tennis de table.
Ah mais non, déjà elle arrive avec sa raquette. Bon, moi les conditions étaient pas idéales. Déjà c'est du plein air. Moi je suis plutôt un joueur de gymnase, tu me connais.
Ouais, ouais. Hein,
moi il me faut voilà des conditions parfaites. Là effectivement ça a été un peu compliqué, mais bon, je crois savoir qu'elle fait du ping pong au club.
Oui, à un petit niveau.
Ouais.
Et ce qui a été gênant, c'est quand elle a dit je veux bien te poter ma raquette, mais fais attention, elle coûte 300 balles.
C'est vrai. Bah, ça coûte plus cher que mes pompes, ça coûte plus cher que moi en fait. Ça coûte plus cher que tout ce que j'ai sur moi. Voilà, elle m'a mis une petite raclée, mais je sens que j'étais pas loin.
T'étais pas loin, ça se rapproche peut-être pour l'année prochaine, pour son stage de seconde.
Exactement.
Qui sait, si
exactement.
Elle passe.
Exactement. En tout cas, on lui mettra une mauvaise appréciation sur son
rapport
de stage.
Ah oui, ça va être une catastrophe. Là, d'ailleurs, je dois remplir de 1 à 5, je sais pas si vous les autres, vous avez aussi ça. Et on doit mettre sur la ponctualité, tout ça. Je pense que je vais tout mettre à 1.
Tu mets tout à 1.
Et je vais rajouter une ligne de table 5.
Exactement. Non, je suis un peu vexé. J'avoue que je suis un peu vexé, mais on a quand même une émission à faire, Maxime. Et en plus, on a de l'actualité aujourd'hui. On a beaucoup d'actu. On rappelle juste que, évidemment, vous le savez, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et vous pouvez retrouver les émissions et Maxime tout de noir vêtu avec un petit col de chemise qui ressort.
Alors, c'est gris.
C'est gris, mais à l'antenne, ça rend noir.
C'est vrai.
Sur eurosport.fr, vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission. De quoi on parle aujourd'hui, Maxime? On va évidemment parler de Kylian Mbappé et de son forfait pour le match face au Bayern Munich en 8e de finale. C'est le 14 février.
14 février, la Saint-Valentin. Mortel Saint-Valentin.
Exactement. Il y a quelques minutes, là, le Bayern Munich a annoncé le forfait de Sadio Mané et a aussi annoncé ses doutes quant au forfait de Kylian Mbappé par la voix de Julian Nagelsmann. Donc voilà, on parlera de Kylian Mbappé. Bluff, pas bluff. Mané, sans Mbappé, à quoi il faut s'attendre? Ce sera le premier sujet de cette émission.
On parlera ensuite de l'Olympique de Marseille qui joue dimanche contre Nice. Et pour le coup, l'Olympique de Marseille n'a pas tellement de soucis d'effectifs, bien au contraire. Et on va se poser la question suivante. Est-ce que l'OM peut être champion de France?
Carrément. Est-ce que l'OM peut être champion de France? Et on terminera avec Raphaël Varane. Le patron des lignes arrières de l'équipe de France qui a pris sa retraite.
On dirait que tu parles du 15 de France, les lignes arrières.
C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a les signations qui arrivent. Jeudi, il a pris sa retraite à l'âge de 29 ans et on se posera la question de sa trace, de sa place, surtout dans la grande histoire de l'équipe de France.
L'émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même les mauvaises, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Vous allez, vous mettez d'ailleurs, je le redis, mais je ne suis pas allé voir les commentaires cette semaine. Donc, si vous avez mis des commentaires et que je vous dis toutes les semaines d'en mettre et qu'on ne va pas les lire, vous aurez l'impression que vous le faites pour rien. Mais non, pourtant, on
parce que
tu as
du travail.
Parce que j'ai du travail, je suis très occupé.
Tu bosses trop, Maxime. Ça, d'ailleurs, ça commence à se voir sur ton physique, tu vois.
Préparation
tu
d'émission.
Tu te voûtes.
C'est sûr.
Tu vieillis.
Je vieillis.
Tu vieillis à vue d'œil. Donc, non, mais mettez des commentaires et moi, je m'occuperai de regarder parce que Maxime, bon, vous comprenez bien que... L'âge aidant, c'est pas toujours facile. Ouais, vous savez, quand vous parlez de digital avec vos grands-parents au repas du dimanche, ou quand, voilà, Maxime,
ils pensent que vous parlez de leurs doigts.
Voilà. Mais ils sont où les commentaires, Martin? Mais c'est quoi les plateformes de... Donc, c'est un peu compliqué pour Maxime, mais je prendrai le relais, promis.
On y va, vas-y. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé s'est blessé après 20 minutes de jeu à Montpellier. Kylian Mbappé est forfait pour les 3 prochaines semaines. Évidemment, quand on voit le PSG ces derniers temps et même ces derniers mois, on peut être très inquiet pour Paris.
On peut être très très inquiet pour Paris parce que sans Kylian Mbappé qui va jouer, a priori, ce sera Hugo Ekitike. Hugo Ekitike qui, je crois, voilà, à peine 50 minutes de jeu en Ligue des Champions pour zéro but, qui n'est pas préparé pour affronter et pour jouer de tels matchs face au Bayern Munich. Il n'est pas, voilà, il n'est pas encore prêt, Hugo Ekitike. Mais il y a eu un doute qui s'est immiscé ce vendredi, là, il y a juste avant qu'on démarre l'émission, puisque Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, était en conférence de presse et a dit, donc, sur la blessure de Kylian Mbappé, je le cite, « Je ne pense pas que Mbappé sera absent pour le match aller. Je suppose qu'il jouera comme prévu. La déclaration sur la page du club est trop vague. » Alors, qu'est-ce que dit la page du club? Bah, elle nous dit que Mbappé est forfait pour 3 semaines, donc il reviendra autour du 23 février. Mais, bon, lésion à la cuisse, mais c'est vrai que les délais de guérison, Kylian Mbappé en a déjà fait son affaire. On se souvient, c'était lors du Final 8. C'était au moment d'ailleurs d'affronter le Bayern de Munich en finale. Il s'était fait charcler par Loïc Perrin en finale de la Coupe de France, mais il était revenu plus vite que prévu. Le Bayern entre, voilà, dans un petit jeu de dupes. Et dans le même temps, Nagelsmann nous dit, et ça c'est moins une surprise, que Sadio Mané ne sera pas là avec le Bayern pour affronter le Paris Saint-Germain. Bref, on rentre dans... voilà, le match est dans quoi? Et dans 12 jours aujourd'hui, ouais. Maxime, on rentre dans une espèce de bataille, dans une espèce de guerre des nerfs, parce qu'on sait que pour ces deux clubs, de toute façon, bah, c'est le match de l'année. A priori, ni le Bayern, ni le PSG, je dis bien a priori, hein, parce que c'est moins facile que prévu. Bah, a priori, ces clubs-là ne sont pas attaqués sur leur, à l'intérieur de leurs frontières. Donc, à quoi on juge leur saison? Eh ben, à la Ligue des Champions, et en particulier à ce match-là. En gros, celui qui perdra aura sa saison quasiment terminée et ratée. Celui qui gagnera pourra encore y croire. Mais Maxime, on sent qu'il y a une tension assez folle, alors, autour du PSG, mais aussi autour du Bayern Munich, qui, comme Paris d'ailleurs, a du mal avec ses résultats en Bundesliga.
Il paraît que Galtier a dit que Nagelsmann bluffait pour Mané. Non, je rigole. Non, mais en fait, non, mais je suis très étonné par cette sortie de Nagelsmann.
Mais ça c'est participe pas, non, mais alors, à un rapport de force.
Ouais,
pour
mais
moi.
Le PSG a des défauts, mais en l'occurrence, le bluff ou jouer là-dessus, je vois pas trop l'intérêt. Alors, on pourrait dire oui, on cache nos forces, mais bon, de toute façon, s'il est persuadé que Mbappé va jouer, ça change rien pour lui, c'est qu'il l'aura face à lui. Moi, je suis pas persuadé qu'il bluffe aujourd'hui, parce que, encore une fois, faut se rappeler que Mbappé a repris la n'a jamais vraiment stoppé la compétition, puisque après la finale de la Coupe du Monde, qui était le dimanche soir, il est revenu le mercredi matin, il a joué 2 matchs, puis il est parti à New York. Et puis c'est presque après qu'il y a eu un surmenage pour moi, parce que je le disais ici la semaine dernière, Pays de Cassel, c'était vraiment pas la peine, hormis pour mettre un quintuplé et faire plaisir aux stats. Et évidemment, ce match en Arabie Saoudite, ça, paradoxalement, pour le PSG, c'était plus important. Mais c'est un souci, apparemment. Ce que disaient les journalistes de l'équipe ce matin, c'est qu'en interne, ça pose question quand même, et c'est logique. Oui, c'est sûr qu'il y a un PSG sans et avec Mbappé. Regardez le match de Reims dimanche. Le PSG se fait bouffer par Reims, mais la seule petite chance qu'avait ce PSG, la seule inquiétude qu'il faisait planer finalement sur Reims, c'était la profondeur avec Mbappé. C'est-à-dire que s'il y a un ballon qui passait le premier et le deuxième rideau, il y avait danger. Là, il n'y a plus de Mbappé et ça change beaucoup de choses puisque Ekitike ne va pas jouer dans les espaces, Neymar ne va pas jouer dans les espaces et Messi ne va pas jouer dans les espaces, du moins dans la profondeur. Donc c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Sera-t-il capable de jouer? Honnêtement, je ne suis pas médecin, pas plus qu'un Nagelsmann. Alors Nagelsmann, on lui a sûrement dit au club, ce genre de blessure, ça peut soigner vite. Oui, mais il y a un risque de rechute. Et pour le coup, là, ce serait un vrai drame que Mbappé prenne le risque. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas que c'est du bluff. Je pense qu'ils l'ont dit ces 3 semaines. Si ça va plus vite parce qu'Mbappé a une bonne composition, tant mieux. Mais je ne pense pas vraiment que le PSG joue avec ça. Et surtout que ce n'est pas tellement dans l'habitude du club.
Ce qui est sûr, c'est que face au Bayern, il faudra, je pense, le Paris ne s'en sortira pas sans un immense Lionel Messi. Parce qu'il y a des doutes autour de l'état de santé de Neymar et de sa cheville. On sait qu'il a passé des examens encore cette semaine à l'hôpital américain de Neuilly. On a vu que Messi, très très bon face à Montpellier mercredi. Messi qui a, avec Fabian Ruiz d'ailleurs, qui a sorti le PSG d'un sacré traquenard. Mais aujourd'hui, le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il voilà, y a assez peu de solutions. Alors Maxime, ça le fait beaucoup rigoler. Mais quand tu passes de Mbappé à Ekitike, il y a un gap monstrueux. On a déjà parlé ici du fait d'être de l'impossibilité pour les remplaçants d'avoir une grande carrière au Paris Saint-Germain ou d'avoir du moins une influence sur les résultats du club, parce que l'ADN de ce club-là, c'est le club des stars, c'est le club des titulaires. Et donc, mécaniquement, dès que tu enlèves un titulaire, en l'occurrence Kylian Mbappé, c'est pas tout le château de cartes qui s'écroule, mais enfin, le château de cartes, il tient aujourd'hui sur les petites épaules de Lionel Messi, qui, je le rappelle, comme Kylian Mbappé, a subi une cadence infernale. Il a joué encore plus de minutes que Kylian Mbappé durant la Coupe du Monde. Il a eu, certes, un délai beaucoup plus long de repos entre voilà, sa finale de Coupe du Monde et la reprise. Mais malgré tout, Messi, lui aussi, est exposé à des cadences infernales et on n'est pas à l'abri, bah, soit alors, d'une blessure, on ne lui souhaite pas, mais soit d'un immense coup de pompe. Parce que oui, il a fait un bon match contre Montpellier, mais jusqu'ici, ce n'était pas folichon non plus.
T'imagines le PSG Bayern sans les trois devant?
Ah ouais, avec Itiki et Solaire. Ouais,
non mais au-delà de ça, non, mais c'est pas, quand tu dis ça me fait rire, c'est pas ça. Mais à un moment, en fait, on va toucher au sujet de la semaine dernière, c'est à qui la faute? C'est-à-dire que si tu as des remplaçants qui sont moins intégrés, moins convaincus de leur place et que ça marche moins bien avec eux, c'est parce que tu ne les as pas concernés suffisamment quand tu pouvais le faire. Et le faire, c'est toute l'année en championnat, c'est parfois faire sortir certains joueurs au bout de 70 minutes et non pas attendre la 93e minute pour pas vexer les égos des uns et des autres. Et en fait, tu récoltes un peu ce que tu sèmes. Et c'est aussi ça, après, la différence entre les titulaires, les remplaçants. Enfin, quand je vois le budget du PSG et qu'une masse salariale comme ça, j'ai du mal à les plaindre, voilà, simplement. Sinon, ça veut dire qu'il fallait dépenser l'argent différemment et pas s'appuyer sur trois stars devant seulement.
Ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup plus inquiet pour le PSG sans Kylian Mbappé que pour le Bayern Munich sans Sadio Mané. Parce que le Bayern Munich a une autre stratégie de club qui, voilà, qui est beaucoup moins centrée sur un, deux ou trois joueurs. Et donc, a plus de possibilités dès qu'il y a une de ces stars. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un coup dur pour Nagelsmann.
Pas le même poids.
Mais de toute façon, Mané, il n'a pas joué depuis le mois de novembre. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu espérer, lui, le 14 février prochain? Est-ce qu'il aurait été titulaire? Est-ce qu'il aurait été en pleine possession de ses moyens? Voilà. Donc, c'est sûr que c'est moins un coup dur pour le Bayern, ce forfait de Mané, que pour le PSG, le forfait de Mbappé.
Et il faut rappeler, sauf si je me trompe, que le transfert le plus cher du Bayern, ça reste Lucas Hernandez à 80 millions.
Oui.
Non, c'est cher pour un défenseur, mais dans la galaxie PSG, 80 millions, vous avez au moins…
C'est le remplaçant du remplaçant.
Ouais, voilà.
C'est le troisième gardien.
On exagère, mais il y a de ça, voilà. Et c'est une autre structure de club. Et c'est sûr que c'est dans ces moments-là… Alors, que ce soit le PSG ou un autre, c'est comme si demain, City perd Haaland. Il manquerait quelque chose, parce que vu les buts qu'il marque toutes les semaines en Première Ligue. Mais bah, moi, je serais moins inquiet pour City, parce que derrière… là, on peut comparer les deux clubs quasiment à moyen égaux, plus ou moins, parce que derrière, il y a une logique de groupe et de remplacement qui sont bien faits par Guardiola, qui a toujours eu ça, d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit concerné. Là, le problème, c'est que quand vous appuyez trop sur les 11 et qu'il vient à manquer deux pierres importantes, bah, vous vous retrouvez dans cette situation-là.
Allez, on va passer au deuxième sujet, parce qu'on se pose la question du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais le Paris Saint-Germain en Ligue 1 n'est pas tout à fait à l'abri. Le PSG compte 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille avant d'aller au Vélodrome, me semble-t-il, dans 3 semaines, c'est
ouais,
ça ?
Le 28 février, me
semble. Voilà, voilà, le 28 février.
Non, et... pas le 28, le 26, bon, peu importe.
Peu importe. Mais de toute façon, voilà, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est Marseille qui reste sur quand même 10 matchs sans défaite. Et dans ces 10 matchs, il y a 9 victoires. Marseille qui a pris 10 points depuis la Coupe du Monde, c'est 3 de plus que le Paris Saint-Germain, par exemple. Marseille qui a comme ça, une espèce de dynamique collective qui emporte tout. Est-ce que ce club de l'Olympique de Marseille peut être couronné champion de France à la fin de la saison, Maxime?
Alors, il faut toujours se méfier des dynamiques parce que les dynamiques, à un moment, prennent fin. Donc, l'OM n'ira pas jusqu'au bout de la saison sur cette dynamique-là et sans doute que le PSG, à un moment, repartira. Il y a quand même 5 points, c'est beaucoup 5 points, c'est pas une paille, mais comme tu l'as dit, il y a ce match entre les deux clubs fin février au Vélodrome qui sera le remake du 8e de finale de Coupe de France d'ailleurs qui a lieu la semaine prochaine. En fait, il faut que l'OM évite que l'écart se creuse dans cette période-là. C'est maintenant qu'il faut se rapprocher du PSG parce que le PSG est aujourd'hui une bête blessée qui avance moins vite, qui a perdu Kylian Mbappé. Donc, c'est à ce moment-là qu'on saura.
Ce qu'ils font très bien jusqu'ici.
Est-ce que l'OM a les moyens d'être champion? Alors, en début de saison, j'aurais dit non. Parce que le PSG et parce que un effectif qui est, on va dire, riche, mais qui n'est pas spectaculaire. On a du mal à être certain, on avait du mal à être certain des forces de chacun. Alexis Sanchez, par exemple, quel niveau aurait Alexis Sanchez à l'OM, cet Alexis Sanchez-là? Et il se trouve que, bah, gloire à Tudor, il peut non pas avoir sa statue au Vélodrome, mais grâce à lui, l'OM est en train de trouver vraiment quelque chose de différent. On parlait de la gestion tout à l'heure du Paris Saint-Germain et des remplaçants. Bah, là, on est à peu près... à quelques détails près, parce que je pense que Dimitri Payet ne serait pas forcément d'accord, mais à l'opposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a une équipe qui a un système immuable, mais avec des joueurs interchangeables, et jusqu'à l'absurde même. Regardez la deuxième mi-temps de Marseille-Monaco. Nuno Tavares démarre à gauche, il le met à droite et ça change tout. En fait, on a l'impression que là, il s'éclate avec un jeu de Lego et il peut faire ce qu'il veut parce qu'il a les bonnes pièces. La seule incertitude que j'ai, évidemment, au-delà de la série qui va à un moment se calmer, cette équipe, elle me fait penser aussi dans sa manière de se dépenser, de travailler à Bielsa 2014-2015. Souvenez-vous, je crois que c'est la 31e journée, Marseille-PSG. Si l'OM gagne, l'OM peut être devant le PSG à ce moment-là de la saison, ce qui aurait été quand même assez exceptionnel. J'ai toujours peur que c'est des équipes qui arrivent au burn-out physiquement, parce que le jeu demande, il y a une intensité, c'est formidable à voir, c'est emballant, le public adore ça et tout le monde aime ça quand il voit ça. Mais jusqu'à temps, est-ce possible? Là, c'est vraiment sur le physique que ça va jouer pour moi.
Là, j'ai deux contre-arguments. C'est que déjà, Marseille, a priori, alors sauf s'ils se qualifient en Coupe de France, si ça continue, jusqu'à la fin de saison, Marseille n'aura qu'un match par semaine. Ça, ça change tout. Et quand on voit le coup de pompe de l'OM, le seul coup de pompe qu'ils ont eu les Marseillais cette saison, bah, ça coïncidait avec le calendrier infernal, Ligue des Champions, vite, vite, faut tout rentrer avant le début de la Coupe du Monde. Donc voilà, ça, c'est mon premier argument. Le deuxième, c'est qu'en plus, il y a eu, j'allais dire, une trêve gratos qui a permis de retravailler le physique, de refaire une prépa physique en novembre-décembre, donc qui a permis de recharger un petit peu la batterie. C'est pour ça qu'aussi Marseille est extrêmement performant en ce début de saison. Donc, disons qu'il y a tous les paramètres qui sont réunis aujourd'hui pour que Marseille enquiquine le plus possible Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, et troisième argument que j'aurais pu ajouter aussi, c'est le mercato qui a apporté quand même trois hommes qui, s'ils ne sont pas dans le 11, au moins peuvent rentrer très vite dans la rotation mise en place par Igor Tudor. Et tu le disais, et moi c'est le point fort de l'Olympique de Marseille. Payet sur le banc, c'est plus une histoire. La suspension de Bailly, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Tavares suspendu au début d'année, c'est passé comme une lettre à la poste. La blessure de Jonathan Clauss, c'est pas grave. Donc on a l'impression que, encore une fois, je dis qu'actuellement, rien ne peut se mettre en travers de la marche de l'Olympique de Marseille. Et pour être tout à fait franc, pour illustrer le sujet, j'ai cherché un joueur qui pouvait illustrer ce sujet. Alors autant à Paris, c'était évident. Autant là, en fait, Marseille, et je pense que c'est une force plus qu'une faiblesse, qui incarne la réussite de l'OM? C'est Igor Tudor, c'est Pablo Longoria. Je trouve que c'est une réussite collective déjà. Alors je ne sais pas si ça les mènera au titre de champion de France, mais comme j'ai dit, il y a des vrais arguments pour au moins croire que ça ira, que ça se jouera peut-être dans les dernières journées. Il y a une dynamique collective que je trouve assez inédite au sein de l'Olympique de Marseille et qui me laisse croire que oui, Marseille peut espérer. Alors, on va juste dire ce que Tudor en pense de ce sujet-là. Donc, c'était en conférence de presse après la victoire à Nantes. Tudor, donc on l'interrogeait sur la possibilité d'être champion de France. Et il disait, on ne doit pas penser à ça, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les supporters peuvent rêver tout le temps. On sait que dans ce championnat, il y a Paris qui dépense de grosses sommes pour les joueurs. Il ne faut pas penser à ça.
Ouais, bah c'est le discours habituel. Ouais. Bah, on peut pas lui donner tort. C'est marrant, c'est dans les joueurs symboles, je trouve qu'il y en a un qui symbolise assez bien cet OM-là, déjà dans le caractère. Même si paradoxalement, il joue pas toujours à son poste, même rarement, et même pas toujours, c'est Guendouzi, simplement. Parce qu'il correspond déjà à l'état d'esprit de l'OM, à l'intensité demandée par Tudor, à la capacité de jouer un autre poste. On l'a vu beaucoup en début de saison et même encore récemment jouer un cran plus haut, notamment quand il y avait Veretout et Rongier au milieu de terrain.
Mais tu vois, il ne démarre pas face à Nantes.
Non, donc ce qui prouve qu'il y a tout en fait dans Guendouzi, je trouve qu'il résume un peu ça, c'est-à-dire la possibilité de faire tourner, la possibilité de ne pas jouer un poste et mettre de l'intensité. Et justement, Nantes, c'est intéressant parce que tu parlais de Clauss, son entrée et Unai qui arrive pour son premier match, ça fait le but du 2-0. Donc incroyable. Voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi interchangeable. Et c'est vrai que c'est Tudor qui a été sifflé en début de saison. Ce qu'on peut, d'une manière, c'était inédit, mais on pouvait un peu comprendre. Il y avait Sampaoli, il y avait cette cote d'amour avec lui. Une équipe qui a bien fonctionné. Il arrive, en plus, a priori, il se met un peu certains cadres à dos, parce que, notamment Guendouzi, parce qu'il
se met les chouchous du Vélodrome à dos.
Il les pousse, donc le Vélodrome n'aime pas forcément ça. Et ce qu'il a fait, c'est vrai que dans l'histoire contemporaine de l'OM, un coach déjà qui se fait siffler au premier match amical, j'en avais pas vu, mais qui va retourner le public comme ça, c'est assez remarquable parce qu'encore une fois, c'est le Vélodrome. Et quand on voit l'ambiance qu'il y a aujourd'hui au Vélodrome, les matchs à guichet fermé, l'emballement qu'il y a autour de cette équipe-là, c'est assez costaud en effet. Comme tu l'as dit, pour finir, le mercato est pas mal. Si jamais et par chance l'OM en plus a trouvé un buteur en la personne de Vitinha, c'est sûr que l'OM aura des arguments pour sinon aller au bout, au moins titiller le PSG pendant très longtemps.
Et en tout cas, il y a Marseille-PSG en Coupe de France la semaine prochaine. Alors Marseille n'est pas favori, mais je pense que ça faisait très longtemps que les deux clubs n'avaient pas été aussi proches. Alors là, je ne parle pas que des effectifs, non, je parle des dynamiques, je parle de la confiance, du moment. En plus, Mbappé est blessé. Je ne sais pas si Paris sera favori au Vélodrome mercredi prochain. Et déjà, rien que ça, c'est un exploit monumental.
Il est presque dommage pour les Marseillais, je pense. Ils n'auront peut-être pas le contraire, peut-être pas la même chose, mais que ce ne soit pas le match de championnat. Là.
C'est vrai.
Parce que là, ça avait potentiel retour à deux points. Ce sera au pire une qualification possible en quart finale de la Coupe de France.
Ce qui n'est pas dégueulasse non plus.
Hein. Ce qui n'est pas dégueulasse. Surtout que l'OM n'a plus gagné depuis 1989.
Exactement. Ça commence à faire long. Raphaël Varane a pris sa retraite internationale. C'était jeudi. À 29 ans. Petite surprise tout de même. Hein. Même si son corps le laisse assez peu tranquille. Même s'il est en équipe de France depuis 10 ans. Et prendre sa retraite internationale à 29 ans, c'est quand même une petite surprise. Alors, on a décidé dans le FC Stream Team de se questionner sur la place que laissera Raphaël Varane au sein de la grande histoire de l'équipe de France, au sein des plus grands défenseurs centraux des Bleus. Alors, on en a choisi quelques-uns. On va faire par ordre chronologique. Maxime Bossis, Marius Trésor, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Raphaël Varane. On peut y ajouter Lilian Thuram. Maxime, opine du chef. Il a cru que j'avais oublié Lilian Thuram. Calme-toi, Maxime. Maxime, où est-ce que tu passes Raphaël Varane dans l'histoire des Bleus?
Alors, toujours très compliqué, mais je ne le mets pas devant De Sailly et Laurent Blanc. Voilà. Je garde l'avis que j'avais post-2018, post-finale de la Coupe du Monde 2018, post-victoire à Moscou. Je pense que Varane... En fait, il y a plusieurs choses avec Varane. Varane, c'est un talent... exceptionnel. C'est 10 ans d'équipe de France quasiment, 93 sélections. Il a tenu la défense sur ses épaules, hormis à l'Euro 2016, mais il était blessé. Et en fait, ce qu'on a vu pendant 10 ans, c'est autour de lui les coéquipiers qui tournaient, de Koscielny, Sacco, Umtiti et compagnie. Il arrête à 29 ans. Alors, c'est peut-être aussi ce qui manquera, peut-être, pour dire potentiellement, il pouvait aller un peu plus haut. Mais moi, alors pourquoi je le mets derrière Blanc et De Sailly? Déjà, c'est marrant, c'est un mix un peu entre les deux. C'est-à-dire, c'est le défenseur moderne qui est capable d'aller au contact, qui ne tacle pas énormément ou à bon escient et qui est censé pouvoir relancer. Mais en fait, moi...
Censé, c'est ça le problème.
Voilà, moi, ce qui m'embête, ce qui m'ennuie, je trouve, parce que je trouve qu'il avait quand même un profil qui se rapprochait plus de Laurent Blanc et je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec Laurent Blanc. Alors, Laurent Blanc, évidemment, c'est une carrière un peu à part puisqu'il est milieu de terrain au début, qu'il redescend. Dans la relance, par exemple, la prise de risque, l'apport offensif, les moments peut-être marquants. Et ça peut être injuste parce que des fois, c'est des moments marquants offensifs qui vous marquent la carrière d'un défenseur. Mais ça compte. Alors, Laurent Blanc, évidemment, il y a le Paraguay, mais il y a plein de moments défensifs aussi qui font que il y a ces 16 buts. Et aussi dans la relance, la prise de risque. Moi, j'ai toujours eu envie de dire à Raphaël Varane, enlève le frein à main, essaye d'aller vers l'avant. Moi, je trouve qu'il manque un peu ça parce que finalement, la carrière d'exception, on n'est pas là pour dire le contraire. Moi, je me souviens, on l'avait interviewé il y a un peu moins de 2 ans et on lui avait demandé est-ce que vous allez peut-être vous rapprocher de Sailly, de Blanc. Il a dit, oh là là, là, c'est des légendes, là, voilà. Je pense qu'on en est encore un peu là. Il va rentrer dans la légende d'équipe de France, évidemment, il est 2018. Oui. Moi, je le mets un cran ces deux-là et devant tous les autres, voilà, tout simplement.
En fait, c'est un peu comme Hugo Lloris, mais c'est un peu comme cette génération-là où ce sont quand même des super joueurs de tournoi. Avant tout. Et Raphaël Varane, je trouve que c'est aussi, comme Lloris, un super exemple. Sa Coupe du Monde 2018 atteint quand même des sommets. Prenez l'enchaînement Uruguay où il marque, et surtout son chef-d'œuvre, la Belgique, en demi-finale où il repousse tout. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de retenir comme image, c'est quand il rentre en feu, Raphaël Varane, il repousse tout. C'est vraiment, c'était démentiel. Moi, je le mettrais peut-être entre De Sailly et Laurent Blanc, mais alors, moi, je mets De Sailly tout au-dessus, intouchable. Parce qu'il dégageait une puissance, parce que voilà, Marcel De Sailly. Mais je le mettrais derrière aussi quand même, si on tient en compte de la carrière en club et des 4 Ligues des Champions de Raphaël Varane,
ça compte un petit peu face au parcours de Laurent Blanc. Alors, vous me parlerez de Manchester et de Barcelone, je vous parlerai de Nîmes, Saint-Etienne et Auxerre. Maxime, je te vois faire ta petite moue. Je ne te regarde pas, mais je sais que tu fais ta petite moue. Je sais que c'est une autre époque, mais malgré tout, voilà. Et puis, pendant 10 ans, il a été le patron absolu derrière, quoi. C'est-à-dire, il s'est déjà imposé comme une évidence. Alors, il y a ce petit duel avec Hummels à la Coupe du Monde 2014.
Ouais, mais alors, ouais.
Voilà, mais c'est, voilà.
Ah, on perd des duels dans des matchs.
Voilà, exactement. Mais pendant 10 ans, c'est quand même lui qui a tenu cette défense de l'équipe de France. Sans discontinuer. Alors oui, et parfois son corps l'a un peu lâché, le Euro 2016, etc. Mais malgré tout, je trouve que cette constance et le fait aussi qu'à côté de lui, les autres semblaient meilleurs, ça aussi, ça me semble important, font que voilà, je le mets un petit peu au-dessus de Laurent Blanc. Parce qu'aussi, il n'avait pas un binôme. Alors, à un moment, on a cru que c'était Sacco, à un moment, on a cru que c'était Koscielny. Voilà, il n'a pas trouvé son binôme. Et je trouve que, voilà, pour ça, il a un mérite exceptionnel.
Non, mais c'est sûr que la différence de Desailly et peut-être Blanc, c'est le côté, voilà, il a été, je ne vais pas dire tout seul parce qu'il a des coéquipiers d'exception, mais. Alors, Blanc n'a pas connu que Desailly, évidemment, et Desailly, à la fin, n'a pas connu que Blanc, mais quand même, c'est vraiment. Ça va quasiment dans la même phrase. Si vous dites Blanc, vous attendez d'entendre Desailly et vice-versa. Alors, pour ce qui est de la carrière en club,
ah, ça m'étonnait que tu reviennes pas dessus.
Il faut savoir que allez, déjà, il a joué avant Bosman et avant Bosman.
Tu parles de Laurent Blanc là. Hein.
Laurent Blanc, pardon. Ouais, parce que, voilà. Et quand il va à Naples, vous vérifiez, mais je pense que c'est le seul international à jouer à l'étranger parce qu'à l'époque, personne n'y joue. Donc, déjà, de l'emmener à Naples et qu'il y aille, ça dit quelque chose de son talent. Puis après, en effet, il revient à Nîmes, Saint-Etienne, Auxerre, etc. Mais c'est sûr que ce n'est pas la même époque et ça, ce n'est pas comparable. La preuve, quand Bosman s'est ouvert, il a filé à l'Inter et il a filé à Manchester.
C'était pas terrible d'ailleurs, Manchester, dans mon souvenir.
Oui, mais il avait 40 ans.
Non, mais voilà, non, bah, mais c'est tout. Mais
là, bah, oui, mais là, alors justement, non, attends. Alors, c'est là que c'est marrant. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu sais à quel âge Laurent Blanc devient champion du monde?
Bah oui, il est âgé. Il est âgé. Ouais.
32 ans.
Ouais.
Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est des carrières qui n'ont. Pas grand chose à voir. Ouais. Et avec un Laurent Blanc qui a démarré milieu de terrain, c'est-à-dire que le prime de Laurent Blanc, il le connaît au moment où Varane renonce au sien, parce que lui, il est plus usé. Alors, Varane a commencé plus tôt. C'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand vous êtes, entre guillemets, un joueur un peu prodige, bah, on vous lance tout de suite dans le grand bain. À Lens, il doit avoir 17 ans dans ces eaux-là. Faut savoir qu'on dit, oui, mais il arrête à 29 ans. Oui, mais sauf qu'il est, lui, il est sur le pont de l'âge de 19 ans à l'âge de 17 ans à 29 ans, et que c'est sans doute d'autant plus éreintant que vous jouez au Real Madrid, et comme tu l'as dit, il y a 4 Ligues des Champions, c'est pas quand même pas le même rythme que en effet un Laurent Blanc qui lui t'as dû démarrer vers 20 ans, 85 à Montpellier, et derrière cette carrière qui va crescendo, voilà. Donc c'est sûr que c'est pas comparable là-dessus, mais moi je parle vraiment des qualités de footballeur. Je pense que il manquera toujours un tout petit quelque chose avec Varane qui est suffisant pour lui pour rentrer dans la légende, mais pour dire qu'il est au-dessus de Laurent Blanc, j'ai un peu de mal.
Mais là où je te rejoins, c'est vrai que Varane, on a souvent eu ces matchs à la fin des matchs où on se disait ah, tu vois, on aurait plus envie qu'il on aurait voulu qu'il prenne le destin de cette équipe de France à bras le corps, beaucoup plus. Je pense que ça correspond aussi à son caractère. Mais comme on l'a vu très jeune, comme on a vu, puis on a vu Pogba prendre de la place, prendre voilà. Et Varane, peut-être un tout petit peu moins constant en équipe de France. Hein,
mais voilà. Il correspond à cette génération-là finalement. Je pense. Mais si tu le mets en troisième défenseur à l'époque de Desailly et Blanc, je pense que je fais quand même jouer Desailly et Blanc. Tu ferais jouer Desailly et Varane ?
Non, mais le problème, c'est que Desailly et Blanc, c'est un puzzle qui s'imbrique. Donc.
Oui, mais il a fallu le trouver au début. Oui, bien sûr, bien sûr. Blanc, mais... Roche, etc.
Je sais pas.
Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les deux dont on parle ont joué au milieu de terrain en équipe de France aussi. Que Varane, lui, il a vraiment été 100%. Il y a quand même un truc que j'ai hier en travaillant un peu le sujet.
Hier ? Oui. Ah oui, mais oui, parce que t'as écrit, oui, parce que tu prépares pas la stream team 24 heures avant. Tu m'as fait très très peur là. Non, là, à un moment donné, j'ai cru que tu bossais.
Je la prépare après. Donc évidemment, c'est 5 buts, on le savait, 5 buts de la tête, voilà, les corners classiques, enfin un but, j'ai dit des buts varanesques évidemment. Un truc qui est incroyable en revanche. 3 cartons jaunes en 93 sélections.
Ouais.
Et un rouge. En plus, c'est en amical.
Lui, il prend pas des rouges en demi-finale de Coupe du Monde.
Et... Ouais.
Non, mais ça va, je te taquine.
En plus, c'est pas le... Enfin, Laurent Blanc,
mais
c'est
oui,
pas le bon.
Oui, mais je te taquine.
Et au sujet de son
ou
arrêt...
en finale, d'ailleurs.
Et au sujet, oui.
Parce que Blanc de Saïf, voilà, c'est un carton rouge chacun en demi-finale et finale.
Et alors, de Saïf, et je crois qu'il fait que 7 fautes durant la Coupe du Monde. Bah, ouais, dont une sur un tacle complètement aberrant.
Ouais.
Voilà, je sais plus ce que je voulais dire.
C'est pas grave, je t'ai coupé, mais c'est... en même temps, j'épargne l'auditeur. Voilà. Et j'épargne notre public. Parce que là, non. Je regarde depuis tout à l'heure, ils baillent, ils regardent leur montre.
C'est sur les 29 ans. Les 29 ans. Moi, je trouve que c'est... Évidemment, on a toujours envie qu'il aille un peu plus loin, mais je trouve que c'est d'une honnêteté et d'une intelligence de se dire... J'ai 29 ans, je pense que j'ai plus grand chose dans le tank, je veux m'arrêter là. C'est d'un courage absolu parce qu'on parle de Laurent Blanc et de Saïd. Laurent Blanc, il a su arrêter après l'Euro 2000, le match suivant contre l'Angleterre. Il est arrivé à 35 ans, c'était logique. Marcel de Sailly, il y a une fin quand même
qui est poussive,
notamment un épisode que je raconte souvent, non pas ici, mais dans la rédaction, où à l'Euro 2004, il est toujours capitaine, mais remplaçant. Et il vient quand même faire les conférences de presse pour dire « Écoutez les gars, je suis encore là les veilles de match. » Alors que normalement, ça ne se fait pas. Mmh. Donc, il s'est un peu accroché. Et finalement, alors la vision d'ensemble, avec le recul, ça ne la gâche pas parce que ça reste Marcel de Sailly. Mais au moins, Varane s'est épargné ça. Il y a cette image douloureuse de la fin contre l'Argentine où il est exténué, où il n'en peut plus. Mais finalement, c'est la fin qu'il a choisie. Et je pense que pour ça, c'est plutôt pas mal.
Et voilà la fin que nous avons choisie, Maxime. Bravo, ouais. C'était une belle conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés. Non,
c'était pas l'émission de trop.
Ah, c'est
ça aussi. Nous aussi, il y aura peut-être un moment, il y aura l'émission de trop.
Je suis à deux doigts de la penser là, Maxime. Je suis à deux doigts de le penser. Il faut demander à notre jeune public si c'était pas l'émission de trop. Je pense que pour eux, c'était l'émission de trop.
Non, regarde,
ils sont fatigués.
Ils sont jeunes, on est toujours fatigués à cet âge-là.
C'est pas faux. Alors qu'on fout rien.
Alors quand même,
l'adolescence, c'est
une semaine.
C'est le temps passé sur le canapé quand même.
Une semaine qui viennent en stage de troisième, qui se lèvent à 10h, 11h le matin et qui repartent à 13h.
Ben oui, bien sûr. L'adolescence, c'est.
Et après, là, dans deux semaines, ils ont les vacances.
Ouais, bah de toute façon, c'est vacances toutes les trois semaines. Donc, collège, les cours, ils se terminent à 15h.
Ouais, ça va, tranquille.
Voilà, la technologie pour apprendre à faire des porte-clés, merci quoi. Enfin, c'est pas non plus. Intellectuellement, déjà, ça demande pas grand-chose. D'ailleurs, bon, voilà.
On est passé par là.
Hein. Non, toi, t'as arrêté en primaire, toi, non?
Ouais.
Ouais, c'était trop dur déjà.
CMB, c'était compliqué.
Déjà trop dur. En plus, tu fous rien de tes journées, tu joues à la console, t'es sur ton lit.
Ah oui, et
alors. Tu t'es vaguement.
Et il y a une des stagiaires qui s'est étonnée de me voir sur WhatsApp. Elle croyait que. Parce qu'on on se sert de WhatsApp sur l'ordinateur.
Et encore, elle a pas vu tes TikTok. Hein.
Pour discuter entre nous, parce que bon, des fois, il y a du télétravail, à distance, c'est pratique. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es sur WhatsApp toute la journée? Voilà, mon boulot, qu'est-ce que tu fais? Bah, WhatsApp, hein.
Bah, elle n'a pas vu tes chorégraphies sur TikTok. Hein. Parce que là, je peux te dire, ce serait. Je pense qu'elle tomberait de haut. Pour retrouver d'ailleurs Maxime sur TikTok, c'est quoi déjà ton pseudo, Maxime?
Pas de pseudo.
Non, on va pas donner ton pseudo.
Voilà, si tu trouves une chorégraphie, même si tu me trouves et que tu trouves une chorégraphie de moi, derrière du deepfake, pardon.
En tout cas, ça me ferait bien marrer. Merci Adrien à la réalisation. Merci Quentin au visuel. Merci à nos quatre stagiaires de 3e qui ont mis quand même une ambiance de folie.
Ah voilà, ils sont chauds.
On était quelque part entre la Bombonera et le Vélodrome. On se donne rendez-vous.
Et au milieu de l'Atlantique alors.
Oui, exactement. Ouais. Bien sous les profondeurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.